approuvé.
Ça serait comme un mec qui lirait des livres à la radio.
Répondérons de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Harnache tes mots de traîneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé. La bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent ou pas.
La frontière gréco-turque. Née à Vissa. À l'extrémité septentrionale de la Thrace, le petit village de Néa Vissa ressemble à un poste de frontière grecque qui aurait abdiqué devant les prétentions turques. Le village s'adosse à un flanc de colline et fait face, plein est, à une vaste plaine agricole. Au bout de la plaine, des rangées d'arbres signalent la présence du fleuve Evros. Plus loin encore, imposante, comme si elle sortait du sol, la mosquée et les grandes murailles de la ville turque d'Edirne. À côté d'Edirne, ville universitaire aux rues grouillantes qu'Ankara veut convertir en pôle commercial, Néa Vissa semble avoir été oubliée par le gouvernement grec. Néa Vissa, la rue principale, succession de magasins aux larges fenêtres condamnées et fissurées, donne sur une multitude de chemins de terre et débouche sur l'église orthodoxe. Devant l'église, des Roms attendent que des exploitants viennent les chercher pour aller récolter des asperges. Il est 8 heures et seuls quelques tracteurs trépignent bruyamment dans les rues vides. Dans les cafés, assis à côté de vieillards, des policiers grecs et européens font une petite pause, non sans jeter un regard attentif sur les rares mouvements de population. Ils recherchent les migrants qui auraient passé la frontière pendant la nuit. Yanis, l'homme qui m'accompagne ce matin-là, est professeur d'école. Il habite dans une petite maison en bordure du village et comme tous les habitants, il connaît les routes qu'empruntent les migrants pour entrer en Grèce.
C'est la nuit qui traverse la frontière. D'abord côté turc, ils se font guider par les passeurs au-delà du fleuve. Evros, puis ils poursuivent le fleuve à pied. Traversent la frontière politique et marchent en direction des lumières de Néa Vissa.
Yanis me conduit dans le village à la rencontre de migrants. Il est sûr que des groupes sont arrivés pendant la nuit et m'emmène d'abord près de la petite station de train de Néa Vissa. Effectivement, dans un parc à jeux mitoyen de la gare, plusieurs familles afghanes se sont installées. Il y a des femmes portant des nouveau-nés, des hommes chargeant de maigres sacs et des enfants qui s'amusent sur les balançoires et des tourniquets. Partis la veille depuis un village turc limitrophe, ces familles sont arrivées à Néa Vissa bien avant que le soleil ne vienne signaler leur présence. La police des frontières grecques ne tarde pas à venir les appréhender. Un camion bleu rentre dans le terrain de jeu en marche arrière. Un gros policier, avec des lunettes de soleil, celui qui conduisait, ouvre les portes de la fourgonnette et fait signe aux Afghans de monter. Il est nonchalant, mais ferme, et ne cherche pas à savoir ce à qui il a affaire. Il suit la procédure, c'est tout. Les parents vont chercher leurs enfants sur les balançoires. Une femme se tourne vers moi et me demande. Camp ? De la tête, je lui fais signe que oui, ils vont l'emmener au camp. Le gros policier fait mine de s'impatienter. Les Afghans se pressent vers le camion, ils rentrent dedans et s'assoient sur les bancs en bois. Le policier claque les portes. Les migrants seront emmenés au centre de détention de Filakiou. Ce sont les premiers instants vécus dans l'Union européenne. Prix Nobel de la paix en 2013. Pendant que je parlais aux Afghans, Yanis a préféré rester à distance. Pour lui, voir des migrants au milieu du village est devenu une routine, un non-événement. Par contre, en tant que journaliste français, je l'intéresse. Il vante le sérieux du travail du journal pour lequel je lui ai dit que je travaille et apprécie que je vienne à la rencontre des habitants. Pour le repas du midi, il a réuni plusieurs personnalités du village. La candidate malheureuse aux élections locales pour Nea Democracia, parti de droite libérale, le gérant du café, également historien, et lui-même donc militant de PASOK, centre-gauche. Dès le début de la rencontre, Yanis annonce qu'il prendra en charge tous les frais de la collation. Sa fille s'est mariée la semaine précédente et la tradition veut qu'il paie pendant quelques semaines les repas et autres pots entre amis. Aucunement gêné par le poids financier que représente cette tradition, il affirme au contraire.
C'est comme ça, même en étant pauvre, en Grèce, nous sommes tous riches.
L'historien converti en gérant de café prend la parole en anglais. Il nous parle de Neavisa. Ce village à proximité des Dirnes a longtemps fait partie de l'Empire ottoman. Les gens d'ici ont des noms turcs et les anciens parlent toujours la langue. C'est en 1922 que l'actuelle frontière a été tracée. Neavisa devenant grec, les Turcs ont conservé la plaine agricole au pied du village afin de protéger la stratégique Edirne. Malgré la séparation politique, les Grecs et les Turcs de cette zone ont toujours été en bonne entente, commerçant entre eux, se moquant des tensions diplomatiques provoquées par les crises chypriotes et feignant d'ignorer les bases militaires situées de part et d'autre du fleuve frontière. Tout allait bien jusqu'à l'arrivée massive de migrants à partir de 2009. À cette époque, l'Espagne achevait la construction du mur qui sépare maintenant l'enclave de Ceuta du Maroc. La route maritime pour rejoindre l'Italie avait eu son lot de catastrophes humaines, des catastrophes que les candidats à la migration en Afrique avaient vues, ainsi que leurs familles à la télévision. Les réseaux de passeurs devaient proposer une nouvelle voie. La mise en place de barrières physiques, comme les murs, ou symboliques, comme les espaces communautaires, n'ont pas pour effet d'empêcher l'accès à un territoire. Elles ne font que déplacer la porte d'entrée. C'est finalement par la Turquie et la Grèce que passe désormais la nouvelle route clandestine pour les migrants souhaitant gagner l'Europe de l'Ouest. Depuis Istanbul, il faut compter 300 euros pour entrer dans l'espace Schengen. Yanis est professeur et à ce titre, ses interrogations sur les immigrés étonnent. Malgré sa relative compassion pour ces personnes, parties à l'aventure si loin de chez elles, il estime qu'elles n'ont pas leur place dans son pays. Pour lui, la seule solution est de les rapatrier chez elles. Si le métissage avec les Turcs est une réalité historique, l'arrivée à la fin des années 80 de populations provenant des pays d'Europe de l'Est, et notamment des Albanais, lui posait déjà problème. Mais avec l'actuelle vague de migration, l'identité grecque serait cette fois sérieusement en péril, et avec elle, toute la civilisation européenne. Yanis pose par écrit sur la nappe en papier du restaurant un calcul simple.
Il y a en ce moment près d'un million d'immigrés dans le pays. Si le gouvernement ramène 1000 par jour, alors en moins de 3 ans, on aura expulsé tout le monde.
Malgré la limpidité arithmétique de son raisonnement, Yanis est inquiet. Les migrants sont en grande majorité des musulmans et ils se demandent si cette migration peut s'arrêter. Leur arrivée massive dans une terre chrétienne et riche ne peut être que voulue, encouragée par les gouvernements islamiques dont la stratégie serait d'envahir l'Europe. Surpris par la gravité du constat qu'il vient d'établir, Yanis s'arrête un instant puis précise.
Le principal problème, c'est qu'on ne reconnaît pas les talibans des autres. On est à leur merci.
Le repas se prolonge. Pour accompagner les plats, nous buvons de l'eau et du tsipouro, un alcool à base de fruits. Yanis préférerait que l'on arrête de parler des migrants. Mais nous abordons tout de même la question du mur que l'État grec veut édifier sur les 10,7 km de frontière terrestre qui coupera en deux la plaine agricole en aval de Neavisa. L'entreprise grecque d'Agres commencera la construction de cette double barrière de métal d'une hauteur de 4 mètres à partir d'octobre. Ce supposé rempart contre la migration, surmonté de barbelés et équipé de caméras de surveillance, coûtera entre 4 et 5 millions d'euros à la Grèce, puisque l'Europe refuse de le payer. Yanis doute de l'efficacité du dispositif.
Le mur nous coûtera de l'argent et ne changera rien. C'est un coût médiatique. Les migrants passeront plus au sud, par le fleuve.
En direction de la Bulgarie, on en une demi-heure, en passant par une succession de routes de campagne bordant des champs de blé. Le centre de rétention, une ancienne usine, est à la sortie du village. Quand ils sont arrêtés à Neavissa, c'est ici que les migrants sont amenés. Ce centre est composé de deux bâtisses, une pour les hommes et l'autre pour les familles, et d'un terrain de basket, le tout ceint d'une haute clôture. Sur les barreaux de fenêtres des bâtisses, des habits sèches. Entre les barreaux, des femmes et des enfants observent des groupes d'hommes fumant ou discutant sur le terrain de sport. Un garde qui empêche fermement l'entrée du centre trouve dans la présence de journalistes une occasion de parler à d'autres personnes qu'à des migrants. Ce policier avait demandé à être muté à la frontière pour protéger son pays des Turcs. Au lieu de ça, il se retrouve à Filakyo, à servir des musulmans.
Je suis devenu le serviteur des migrants. On m'oblige à leur servir de l'eau, des cigarettes. Je dois même les accompagner aux toilettes. Et en plus, je gagne que 1000 euros par mois. Ce plan de la police grecque et de Frontex, la police européenne des frontières, n'est pas un plan de répression des migrants comme il devrait l'être. C'est un plan d'accueil des migrants. Nous les traitons trop bien. En plus, tous ces gens sont des musulmans. Si ça continue, nous serons bientôt tous des Albanais ou des Pakistanais. La Grèce n'a jamais conquis d'autres pays. Pourquoi devrions-nous supporter tous ces migrants? Et si les choses se passent mal chez eux, pourquoi ils ne font pas la révolution?
Dans le centre, les migrants patientent dans l'attente de leur libération. Ce passage à Filakyo, voulu, organisé par le gouvernement grec et l'Union européenne, leur apprend quelque chose d'important. Ici, tu n'es pas chez toi, donc tu dois te plier à ce qu'on te dit. Pendant leur séjour dans le centre, les migrants vont perdre la notion du temps. 6 mois, 1 an, 2 ans, combien de temps resteront-ils à Filakyo? Qui décide? L'Union européenne ou ce massif policier qui s'ennuie en fumant? Tantôt l'une, tantôt l'autre. Sans qu'ils aient droit à une explication, les migrants doivent se plier au rythme des autres, au rythme de la Grèce, à celui de l'Europe, au rythme des policiers qui les gardent ou les arrêtent, à un rythme que d'autres définissent et sur lequel ils n'ont aucune prise. Ici, ils apprennent donc à attendre. Ils ne peuvent pas demander ni savoir ce qu'on va faire d'eux, ni combien de temps ils resteront ainsi éloignés de leur marche en avant. Leur épisode grec sera à l'image de ce séjour à Filakyo. Ils vivront dans l'incertitude du présent, la fuite du passé et le flou de l'avenir. Par chance, dans la région d'Evros, on ne veut pas d'eux, et les habitants font pression pour les voir partir. Au bout de quelques semaines, les procédures s'accélèrent finalement. Un jour, des fonctionnaires de l'Union européenne prélèvent leurs empreintes afin de les enregistrer dans le fichier Eurodac, qui permettra de les pister partout en Europe. Quelques jours après, un avocat travaillant pour l'État les informe de leurs droits et les restrictions de la politique grecque en matière d'immigration. Puis un matin, un soir ou une nuit, ils sont libérés, emportant avec eux un savon, une brosse à dents et un permis de séjour de 30 jours. Délai au terme duquel ils devront avoir quitté le territoire grec. Le garde posté à l'entrée les laisse sortir sans un mot. Il n'y a ni bus, ni train. Ils vont devoir marcher jusqu'à Alexandroupolis, à 80 km de là, ou en direction d'Orestiada. Mais ils ne vont pas quitter la Grèce. Leur objectif est d'arriver à Athènes. La gare d'Alexandroupolis. L'unique quai de la gare d'Alexandroupolis est maintenant vide. Le train de 15h43 serpente au loin et se confond avec la buée estivale. Seuls 3 chiens restent allongés à l'ombre sur la voie des départs. À côté d'eux traînent quelques cartons et une chaussure recouverte de boue séchée. Face à la station ferroviaire, un bateau de croisière aux couleurs nationales grecques mouille dans l'étendue argentée de la mer d'Égée. Plus loin, au sud-ouest, se dresse la grande île de Samothrace et ses contreforts montagneux. À l'est, on aperçoit la côte turque, plongeant plein sud sur 500 km. Situé en bout de quai, l'unique bâtiment de la gare sert à la fois de salle d'attente et de billetterie. Sur un des murs extérieurs du local, une inscription : Solidarité avec les migrants. À peine parti, le train train de 15h43, le jeune chef de gare ferme énergiquement la vitre du guichet et s'empresse de sortir. Il traverse la rue en slalomant entre plusieurs Vespas et rentre dans un café. À l'intérieur, des hommes âgés jouent aux cartes. Selon Thanassis, le fils du patron, l'histoire d'Alexandroupolis est racontée par les photos en noir et blanc qui recouvrent les murs du café. Histoire racontée par les portraits souriants de ses habitants, ceux qui vivaient dans ce tranquille village de pêcheurs avant qu'il ne devienne une ville stratégique où se mêlent migrants, militaires, mafias et touristes. Thanassis est un enfant d'Alexandroupolis. Il travaille depuis 20 ans dans un centre spécialisé situé sur les hauteurs de la ville, en face d'un détachement militaire. Il y enseigne l'agriculture à des adolescents ayant un handicap moteur. La nette baisse de son salaire, conséquence de la cure d'austérité en Grèce, ne lui permet plus de payer son logement. Voilà 2 ans que Thanassis vient travailler au bar de son père, en complément tous les après-midi. Je bois le café qu'il m'apporte, puis souhaite régler l'addition. Un monsieur à côté de moi fait signe de la main qu'il paiera. Thanassis m'explique que c'est leur manière d'accueillir les étrangers. L'hospitalité transformée en règle de vie. Les Grecs l'appellent Philorhénia. Thanassis est curieux de savoir ce que je viens faire ici.
À part en été, il y a peu de gens qui visitent cette région, et souvent pas pour des raisons qui nous honorent.
Après s'être enquis de ma démarche, Thanassis tire sur sa cigarette et me dit
« Tu veux voir des migrants? Tu veux savoir ce qu'on en pense? T'as qu'à regarder ce qui se passe en face de toi. »
Capitaine Samsul. Derrière les larges vitres du café, un groupe de migrants avance vers la gare et disparaît dans la salle d'attente. Une fois à l'intérieur, ils occupent la totalité des 16 sièges. En face d'eux, le guichet fermé et un téléphone à carte. Tous sont silencieux, sauf le plus âgé du groupe, Samsul, qui converse avec le jeune René à propos du prix des billets. Samsul a une position particulière au sein de ce groupe de Bangladais. Il est le capitaine. À ce titre, il doit s'occuper des négociations, notamment avec les passeurs et les autorités. Il est aussi responsable du choix de l'itinéraire, du rythme des étapes et du règlement des différends qui pourraient affecter la vie du groupe. Au-dessus de Samsul et René, un papier scotché indique les détails des 2 trains quotidiens en partance pour Athènes. L'express, celui du matin, coûte 65 euros. Celui de 15h43, seulement 38. Aujourd'hui, faute d'argent, le groupe ne mangera pas. Samsul se veut rassurant.
L'important est d'arriver jusqu'à Athènes. Une fois là-bas, on pourra se reposer.
Vers 18h, le jeune chef de gare ouvre le guichet. Une fois les billets achetés, le groupe se dirige vers le quai. Les cartons qui traînent sont réquisitionnés pour qu'il n'ait pas à s'asseoir à même le sol. Les couvertures sont également dépliées. Certains enlèvent leurs chaussures et les font sécher au soleil. L'un des Bangladais a 2 chaussures différentes, une tongue et une chaussure de sport. Ça fait bien rire ses compagnons. Il a perdu sa chaussure il y a 3 jours lors de la traversée nocturne de l'Evros. Le fleuve Evros. L'Evros est un fleuve frontière. Il sépare la Grèce et la Turquie depuis la Bulgarie au nord jusqu'au delta du fleuve sur la mer Égée au sud. Tout au long des 170 km de frontière, de part et d'autre du fleuve, des postes militaires grecs et turcs se font face. Côté turc, le rouge du drapeau national et les miradors se détachent dans le ciel. Côté grec, des champs de mines antipersonnelles côtoient des camps militaires ou des exploitations agricoles. Depuis 2011, l'Agence européenne pour la sécurité et les frontières extérieures, Frontex, a déployé un dispositif d'appui aux forces de sécurité grecques afin de dissuader les migrants de passer la frontière. Positionnés aux différents points de passage des migrants, les agents de Frontex sont surtout présents au nord, près de Neavisa, là où l'Evros file du côté turc et permet aux migrants de passer la frontière en marchant. On reconnaît celles et ceux qui sont passés par l'Evros, à la boue qui s'accroche aux pantalons et aux chaussures. C'est le cas de Mustapha, un Marocain. assis sur l'un des bancs qui parsèment le quai de la gare. Mustapha a son bras gauche dissimulé dans un blouson. Il me met dans les mains une radiographie. Je la déploie sans la comprendre. Il ouvre alors son blouson et montre son bras en écharpe. Avec son autre main, il dessine sur le sol terreux une paire de menottes. Puis il mime les militaires turcs en train de le passer à tabac et la traversée du fleuve frontière avec son épaule déboîtée. Cette nuit-là, deux bateaux transportaient 6 migrants, chacun se suivait, et tous les deux ont chaviré. Deux Afghans et un Marocain se sont noyés devant ses yeux. Lui non plus ne savait pas nager, mais il avait un gilet de sauvetage qui lui a permis de se laisser dériver jusqu'à la rive occidentale. Pendant cette traversée, il a tout perdu. Couverture, gants, bonnet, habits, tapis de prière et passeport. Tout, sauf le Coran, qu'il avait pris soin de mettre dans un sac plastique et glissé dans une poche intérieure. Arrivé en Grèce, il a été accueilli à l'hôpital, soigné, puis mis dehors. Son bras lui fait encore mal, mais il ne peut plus prier. En repartant de l'hôpital, il a sonné à une maison au hasard. La famille qui vivait là lui a donné des biscuits, une canette de coca et 10 euros. Mustapha mime avec sa main valide les larmes qu'il a versées quand il a reçu cette aide. La maison. Dans le courant de l'après-midi, de nombreux groupes de migrants affluent vers la station de train. Il y a des familles, des hommes seuls, des mineurs ou des jeunes gens adultes voyageant en groupe. Ces migrants sont afghans, pakistanais, bangladais, irakiens, syriens, maghrébins, libyens ou encore originaires d'Afrique subsaharienne. Certains savent déjà où ils vont passer la nuit. De jeunes parlant l'arabe sont assis dans le pick-up bleu abandonné à proximité de la salle d'attente. Me voyant arriver, ils ouvrent la porte passager. Ils parlent un peu français et sourient en montrant l'intérieur de la voiture où ils passeront la nuit.
C'est la maison.
Sur le tableau de bord, un magazine avec en couverture une femme nue. Ce magazine est déjà dans la voiture quand ils sont arrivés. Mohamed semble maintenant gêné par sa présence et préfère le mettre dans la boîte à gants. Ces deux jeunes sont entrés en Grèce avant-hier par la frontière terrestre. L'un des deux sort de sa poche le document qu'on leur a donné au centre de rétention. Si les inscriptions sont en grec, Mohamed lit clairement son nom, son pays d'origine, la Palestine, et son âge, 24 ans. Mohamed me demande un stylo. Il dessine sur une feuille une carte de la Méditerranée. Il est en fait marocain et il est arrivé en avion jusqu'à Istanbul. Là-bas, il a déchiré son passeport et se déclare dorénavant palestinien. Je demande la permission de prendre une photo d'eux. Il refuse. Mohamed prononce le mot « famille ». Je comprends qu'il ne veut pas que sa famille tombe sur une photo de lui dans cette voiture. Puis il réfléchit et se ravise. D'accord pour les photographier, mais seulement si je leur donne 76 euros, le prix de 2 billets de train, pour Athènes. Je décline la proposition. Le café. Les parties de cartes continuent au café. Une télé s'allume. Sur le petit écran, des joueurs de football s'animent autour d'un ballon. Thanassis m'accompagne en buvant de la Malamatina. Voilà 20 ans qu'il boit tous les jours cette boisson alcoolisée produite à partir de cépages grecs. Le père de Thanassis s'approche. Il a le visage fin et creusé des portraits qui encombrent les murs de son café. Il soutient le mouvement d'extrême droite, Chrissi Avgi, obdoré, et assume ce choix.
D'abord, il y a le problème de la religion. Ces migrants sont des musulmans et nous sommes orthodoxes. Ensuite, il y a la criminalité. Les migrants, ils s'entassent à Athènes où il y a du chômage. Sans travail, ils deviennent des criminels. Obdoré est le seul parti à proposer la déportation des migrants dans leur pays d'origine.
Petit à petit, le café se vide de ses joueurs et je me retrouve seul avec Thanassis.
Comme beaucoup de Grecs, mon père, il a peur. Il finance depuis 2 ans une milice locale qui, sous couvert de protéger la population, passe à tabac les migrants.
En face du café, sur le quai de la gare, des dizaines de migrants attendent en silence. Thanassis avoue ne jamais être allé leur parler.
Faut pas les aider, sinon ils viendront en plus grand nombre. Mais que faire, hein ? Ces gens, ils vivent un cauchemar, ils arrivent fatigués, sans avoir mangé. Ils auraient besoin de médicaments, de nourriture. Mais avec quel argent la Grèce peut financer tout ça ?
La station de train. Cheyenne est assis contre la porte d'entrée de la salle d'attente et souhaite montrer ce qui le fait souffrir. Il enlève péniblement les gants qu'il porte pour qu'il n'y ait pas de frottement. Sa main gauche est gangrénée. Elle n'a pas supporté le froid des montagnes enneigées du Kurdistan iranien. Près de lui, un de ses compagnons montre ses pieds. Même problème. Cheyenne accepte que je le prenne en photo. Il semble apprécier que quelqu'un se préoccupe de sa main. Le reste du groupe de Bangladais est installé plus loin sur le quai. Trois prétendus Afghans parlant l'ourdou viennent à leur rencontre. Il fait nu, mais ils portent des lunettes de soleil. Ils proposent aux migrants de leur prêter de l'argent et de les héberger. Ainsi, ils pourraient téléphoner à leur famille, se reposer aussi. Suivant les injonctions de capitaine Samsul, personne ne leur répond. Une fois les trois Afghans partis, Samsul explique.
Ah, ces trois Afghans, ils font partie de la mafia. Si on va chez eux, on sera enlevé ou nos familles rançonnées. Je dis pas que tous les Afghans sont mauvais. Mais sur une main, il y a des doigts de différentes tailles, différentes formes. C'est pareil pour les gens. Faut faire attention sur qui on tombe, surtout quand on est migrant. On est vulnérable et on est dans l'illégalité.
Les trois Afghans avec lunettes de soleil viennent tous les soirs solliciter les migrants. Aujourd'hui, deux Pakistanais n'ayant pas les 38 euros pour acheter le billet de train accepteront de les suivre. Ils reviendront un peu plus tard, le regard fermé. Problème. Se contenteront-ils de dire ? Au bout du quai, allongé sur un banc, Mumtaz l'Afghan somnole. Il porte des baskets, un jean et appuie sa nuque sur un grand sac. Ses parents ont vendu leur maison pour financer son voyage. Il affirme vouloir devenir docteur. Tout en laissant aller son regard dans l'obscurité qui couvre la mer Égée, Mumtaz se demande si c'est mieux d'étudier en France ou au Danemark. Quand les deux Pakistanais qui étaient partis avec les trois mafieux passent devant lui, il les arrête et échange quelques mots. Mumtaz leur raconte sa conversation téléphonique avec ses contacts à Athènes. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Il n'y a pas de travail et les migrants sont massivement arrêtés. Les deux Pakistanais l'écoutent attentivement, le visage fermé. Derrière eux, une enseigne clignote. Girls. Il s'agit d'un club de lap dance où travaillent des filles de l'Europe de l'Est. Des Grecs rentrent. La nuit avance. La station s'enfonce peu à peu dans l'obscurité. La pluie commence à tomber. Elle vient du sud et, poussée par le vent marin, tombe en diagonale, ce qui fait que, même à couvert, on reçoit de l'eau. À côté de la salle d'attente, des migrants sont assis à la queue leu-leu, les uns contre les autres. Certains plongent leur tête dans une capuche, d'autres sous un sac plastique. Un Syrien aux yeux clairs, grand et frêle, marche le long du quai. C'est sa quatrième migration. Les deux Marocains dorment dans la camionnette bleue, Mohamed à la tête couchée sur le volant. L'express de 7h40 vient de partir. Mumtaz l'Afghan dort toujours au fond du quai, enroulé dans une grande couverture. Un groupe de maghrébins se réchauffe au soleil. Ils sont arrivés au petit matin et semblent joyeux. Proche de la gare, près du port, Mohamed et son compagnon ont trouvé des toilettes avec un point d'eau et en profitent pour se rafraîchir. Tassis travaille depuis déjà une heure dans le centre d'éducation adaptée. Aujourd'hui, ils récolteront des tomates. Capitaine Samsul revient de la ville avec un sac de pommes et un morceau de pain qu'il dispose sur un banc. Il fait des parts à peu près égales et distribue une ration à chacun. Il a aussi acheté un paquet de cigarettes et une carte de téléphone. Le groupe mange, puis s'installe sur le quai face à la mer. Un jeune Bangladais s'avance vers la salle d'attente. C'est à son tour d'appeler sa famille. Il parle avec ses frères, ses sœurs, ses oncles, mais c'est avec sa mère qu'il commence et clôt la communication. Une fois l'appel terminé, il me dit qu'elle pleurait à chaudes larmes, mais qu'il ne sait pas si c'est d'inquiétude ou parce qu'il lui manque. Après lui, c'est au tour des deux Pakistanais, à qui il a prêté la carte, d'appeler leur famille. Ils ont besoin qu'on leur envoie de l'argent pour acheter les deux billets de train. Mais personne n'est en mesure de les aider. Le train de 15h43. Midi passé. Les migrants attendent le train. Appréhension d'un avenir incertain, proximité d'un passé qui s'éloigne. Les Bangladais viennent tous du village de Moimonsang et ne migrent pas pour des raisons politiques, mais pour trouver un avenir meilleur. Au pays, le jeune René n'avait pas de travail et occupait ses journées en faisant des tours de moto entre son village et la plage, ce qui déplaisait à sa mère. Il aimait surtout transporter les filles et sentir leur poitrine contre son dos. Cheyenne, le jeune homme aux mains blessées, était opérateur dans une entreprise d'étiquetage. Il me montrerait bien la photo de sa femme et de ses deux garçons, mais les militaires iraniens la lui ont volée. Dans le groupe, il y a aussi un coiffeur qui s'occupe maintenant des cheveux de ses compagnons. Leur voyage a commencé il y a 2 mois. D'abord l'avion jusqu'à Dubaï, puis le désert, où ils ont marché 3 jours et 3 nuits pour rejoindre Oman. Ensuite, ils ont pris le bateau jusqu'en Iran, la voiture jusqu'à Téhéran et le bus pour atteindre le Kurdistan. C'est lors de la traversée irano-turque que Cheyenne s'est brûlé les mains et qu'il s'est fait arrêter par l'armée iranienne. Pour ne pas se faire déporter au Bangladesh, il s'est déclaré birman. Plus tard, le groupe s'est reformé et a rejoint Istanbul par bus. Après quelques jours d'attente, ils ont rencontré des passeurs qui les ont amenés au bord du fleuve Evros. Capitaine Samsul dit que tous les souvenirs de ce voyage sont dans sa tête, des déserts de la péninsule arabique jusqu'à la majestueuse Istanbul. Mais il rajoute que ce voyage n'avait rien d'agréable, que c'était beaucoup de souffrance et qu'il préférait ne pas s'en souvenir. Si c'était à refaire, il assure qu'il ne le referait pas. À 15h40, le train arrive. Sur le quai, un jeune contrôleur, cigarette à la bouche, fait le tri parmi les voyageurs. Les migrants doivent occuper le wagon de queue. Les Grecs, eux, pourront s'asseoir où ils veulent. Le train démarre. Dans le wagon du fond, celui des migrants, le silence règne. La fatigue se fait sentir. La plupart en profitent pour dormir, d'autres regardent le paysage ou fument cigarette sur cigarette. Les deux Pakistanais et les deux Marocains ont peur car ils n'ont pas de billets. Ils ont raison. Ils seront descendus à la prochaine station. Les autres arriveront à Athènes le lendemain à 10h.
Στα δυο μου χέρια θέλουν τώρα να μου φτιάξουν μια φωριά.
pousser charrette. La Grèce ne devrait être qu'une escale, qu'un point de passage pour les migrants. Dès qu'ils arrivent à Athènes, ils essaient de partir en prenant le bateau à Patras afin de rejoindre l'Italie. Ils se cachent dans les camions, voire dans les essieux des camions. Mais cette voie, trop connue, trop empruntée, trop dangereuse, est maintenant bien contrôlée. Les migrants tentent dorénavant de partir en avion, avec un faux document. Certains réussissent et sont déjà en train d'expérimenter un autre bout d'Europe, une autre aventure, un autre problème. Et celles et ceux qui échouent, qui se font prendre par la police au contrôle des billets puis renvoyés à Athènes, n'ont qu'une seule idée, essayer encore. Chaque tentative de voyage coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Au début, les familles ou les amis paient.
Les familles envoient l'argent pour payer le faux document et le billet d'avion pour la Belgique, l'Italie ou la France. En tout, entre 600-700 euros. En cas d'échec, si on n'arrive pas à voyager, elle renvoie de l'argent. Une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'elle puisse plus le faire.
L'os s'arrête un instant, réaliste.
On est parti pour chercher de l'argent, mais c'est nous qui leur en demandons.
Quand les familles ne peuvent plus aider, commence le vrai problème.
Faut qu'on trouve une solution pour avoir de l'argent et retenter un voyage. On n'a pas le choix. Faut qu'on quitte ce pays.
Ramasser du fer, du papier, des bouteilles dans les poubelles est une solution pour gagner cet argent. Vendre des paquets de marijuana ou de coke en est une autre. Couper les cheveux des amis, travailler dans les champs de fraises ou d'olives, participer au business des faux papiers, se prostituer, s'impliquer dans la mafia d'Al Capone. Toutes ces solutions sont à considérer. Que penser alors du saut dans l'illégalité de certains précarisés? Est-ce une prédisposition à la criminalité ou, plus vraisemblablement, la conséquence d'une absence de réponse à cet impératif? Il faut trouver une solution à mon problème. Quartier Kipseli. Los est maintenant dans la rue avec son ami Moussa, un autre Ivoirien. Ils se sont rencontrés dans une cave à Istanbul avant de partir vers la Grèce. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Ils font tous les jours ensemble le tour des marchés. Ils passent d'abord par celui de Kouliatou, où l'on peut trouver des objets et habits en tout genre. Sur ce marché se pressent les Grecs pauvres et les immigrés en provenance de l'ancien bloc communiste. Les Albanais, les Bulgares, ou arrivés plus récemment, les Africains et les Asiatiques. Moussa et Los viennent saluer des compatriotes qui vendent des habits à Pénina, 50 centimes d'euros pièce. Ils restent un temps avec eux, puis, après s'être intéressés à un téléphone portable trop cher à leur goût, ils marchent vers l'autre marché, celui des fruits et légumes, afin d'y récupérer des invendus. Cherchant par terre ou dans les poubelles, ils trouvent des tomates, de la salade, des oignons, des mandarines. Comme beaucoup d'autres migrants, c'est comme cela qu'ils récupèrent les aliments à cuisiner. En rentrant chez eux, dans le quartier du Kipseli, Los a une mauvaise surprise. Hier, alors qu'ils étaient en train de travailler près d'Al Capone, la pluie a inondé la chambre à coucher de leur petit appartement. À Athènes, les immigrés vivent pour la plupart dans des caves aménagées dans des sous-sols des immeubles, en dessous du niveau de la rue. Fenêtres donnant sur les trottoirs leur permettent d'aérer, ces ouvertures mal isolées laissent aussi passer l'eau par les fortes pluies. Ce fut le cas hier. L'eau s'est infiltrée. Moussa explique qu'il a dû jeter les matelas car ils étaient trempés. Los s'inquiète de savoir comment ils vont faire pour dormir. Mais Moussa lui répond de ne pas s'inquiéter. Il va installer des cartons par terre jusqu'à ce qu'il trouve de nouveaux matelas dans les poubelles. Los et Moussa habitent avec 17 autres personnes dans cette cave de deux pièces reconvertie en appartement, chambre et salon, et louée à 260 euros par mois. Avant l'arrivée des migrants, ces caves n'étaient pas utilisées. Elles constituent dorénavant une manne non négligeable pour de nombreux propriétaires grecs. Mais ces appartements exigus, sans lumière, aux murs sales et gorgés d'eau, sont des témoins immédiats de la précarité des migrants. La pièce d'entrée de l'appartement, le salon, est constamment plongée dans le noir. Une télé passe en boucle des films américains sans sous-titres ou des séries nigérianes. Les Ivoiriens de la maison, francophones mais parlant aussi le Dioula, ne comprennent ni les uns ni les autres. Parfois, TV5 Monde vient remplacer les fictions. Ce soir-là, un reportage constate qu'en Europe, avec la montée du terrorisme, des Mohamed Merah sont potentiellement présents partout. Un autre reportage voué au trésor de la Méditerranée retrace le parcours d'un entrepreneur français installé sur une île grecque. Les Cyclades grecques m'ont donné ce que j'ai toujours recherché, l'harmonie et la sérénité. Dans la cuisine, un large frigidaire presque vide et une armoire remplie de chaussures, de vêtements et de matériel électronique. Tout a été récupéré dans la rue. Moussa confirme.
Ici à Athènes, on vit dans la poubelle. On survit grâce à la poubelle.
Los commence à cuisiner. Ils ne sont que deux à cuisiner dans la maison. Les autres sont interdits de préparation car ils gâchent les aliments. Tous les deux jours, Los prépare un grand repas pour 18 personnes. Aujourd'hui, une sauce tomate avec des oignons accompagnée de riz. À côté de Los, Madès ironise sur la composition du menu.
Quel festin!
Puis, comme chaque fois quand il est de bonne humeur, Madès commence à chanter.
Ils ont cherché un visa fatigué, oh, ils n'ont pas pu avoir. Oh, oh, oh. Un beau matin, ils décident de passer par Turquie. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. C'est là qu'ils ont mangé les totems.
Madès marque une pause et sort de sa poche un mouchoir froissé. Il a arrêté de chanter.
Notre rêve, c'est comme ce mouchoir. Il est à moitié brisé, mais pas totalement déchiré. Ah, c'est ça, non ? Notre rêve n'est pas totalement déchiré. On est des aventuriers. Et l'aventure, c'est douleur, tristesse et souffrance. Mais on a un objectif. Et cet objectif, c'est quoi ? C'est de poursuivre notre rêve. Et ce rêve, c'est quoi ? C'est de se faire une place au soleil.
Une fois le repas terminé, Moussa et Los s'installent au salon en compagnie de Madès. Ils écoutent de la musique ivoirienne téléchargée sur leur téléphone. Los réfléchit à haute voix, le visage fermé.
Si un jour j'arrive à sortir d'ici et que je vais en Afrique, si je croise quelqu'un et qu'il me dit qu'il est grec, je vais pas le laisser partir comme ça. Moi je vais le frapper, hein. Ils nous ont trop fait souffrir.
Moussa n'est pas d'accord.
Il faut laisser ça, il faut juste réfléchir à comment partir d'ici.
Mais Los ne l'écoute pas, il poursuit son idée.
Dans ce pays, il y a même des groupes de racistes. Des gens qui n'aiment pas les immigrés et qui les frappent. Mais dans quel pays ça existe, les racistes, là ?
L'homme primitif vivait de la cueillette. Nous vivons de la poubelle. Il est 5 heures du matin. La nuit est encore noire et les rues sont calmes. Moussa, accompagné par Ben, le footballeur, pousse un chariot débordant d'objets de fer. 2 à 3 fois par semaine, Moussa fait les 13 kilomètres qui séparent le quartier Kipseli d'un hangar situé dans la zone industrielle, afin d'y vendre le fer qu'il a récolté dans les rues d'Athènes. C'est son travail. Aujourd'hui, il a demandé à son ami Ben de venir, car avec un caddie si lourd, les virages et les descentes sont durs à négocier, mais aussi parce qu'il transporte un bien précieux. Le cuivre, qu'il appelle le fer rouge, se vend 16 fois le prix du fer normal, et cette fois, il a réussi à rassembler un beau stock. En tout, il espère tirer près de 150 euros de sa collecte. Sans travail légal, pousser charrette est devenue l'une des seules façons pour les immigrés de gagner de l'argent. Certains chassent du papier, les autres du fer. Le kilo de fer est racheté 23 centimes par la propriétaire du hangar. Une entrepreneure également enseignante, mais qui, comme beaucoup de Grecs, est obligée d'avoir 2 emplois. Les migrants racontent qu'elle paie mieux que les autres, mais qu'il est possible que sa balance soit volontairement faussée. Elle revend ensuite le fer en gros à des Albanais ou à des Chinois. Ces derniers l'emportent au port de Pirée, propriété de l'État chinois, pour les 25 prochaines années, et des bateaux remplis partent alors jusqu'en Asie. Si les Roms ont été les premiers à pousser charrette, il s'agit maintenant d'un phénomène très répandu à Athènes. Toute la journée, on peut croiser des Noirs africains, des Pakistanais, des Bangladais, poussant leurs chariots. Certains ont des chariots classiques, des chariots de supermarché, mais les Bangladais travaillent aussi avec des chariots à moteur. Moussa pousse des chariots depuis qu'il est arrivé à Athènes et va continuer car il ne peut plus faire partie de la mafia d'Al Capone. Quand il arrive au hangar vers 6 heures, seuls quelques caddies sont parqués devant l'entreprise. Vers 7 heures, un coulissement annonce l'ouverture du magasin. À l'intérieur, sur la gauche, une grande benne recueille le gros du fer. Au milieu, une sorte d'estrade sert de balance. Les migrants y font peser leurs chariots. Et à droite de cette estrade, un Bangladais fait les comptes des kilos apportés. Puis il aide les migrants à balancer le fer dans la benne. Aujourd'hui, Moussa a rapporté 173 kilos de fer et 27 kilos de cuivre. Pour provoquer Moussa, le Bangladais le traite en anglais de voleur.
You are mafia.
Moussa s'énerve en français.
Attention à ce que tu dis, je vole pas moi.
Sur la droite, à l'intérieur d'un bureau en préfabriqué, se trouvent l'entrepreneur grec et son comptable, un autre Bangladais, qui lui a été recommandé par la communauté. Grâce à une large fenêtre, ils peuvent surveiller ce qui se passe dans le hangar, mais ils n'ont pas à subir le constant entrechoquement du fer. Ce sont eux qui payent les migrants. Moussa vient récupérer son dû. Il ne sait pas lire ni compter, mais il n'a aucun problème avec l'argent. Il compte puis recompte les billets que lui donne le Bangladais, jusqu'à signifier de la tête que le compte est juste. Il met les billets dans sa poche et allume une cigarette qu'il savoure. Ben l'attend dehors. Il fait jour. Ils vont refaire en sens contraire les 13 kilomètres qui les séparent de Kipseli. En chemin, ils croisent le flot incessant des migrants apportant du fer au hangar. La frontière. Vers 14h, Los annonce à son compagnon une mauvaise nouvelle. Le passeur ivoirien qui devait les amener jusqu'au train de marchandises vient de téléphoner. Il veut bien les guider, mais demande 2 000 euros, prétextant que les contrôles de police sont de plus en plus nombreux. C'est trop cher pour les 3 compagnons. Ils vont devoir y aller seuls. C'est risqué, mais il n'y a pas d'autre option. Le Sénégalais connaît un peu la route et leur donne des conseils. À 16h, le groupe se prépare à partir. Los résume.
Bon, ça y est, faut y aller. On doit partir. On a peur parce qu'on connaît pas la route, mais avec l'aide de Dieu, ça va aller. D'abord, on prend le bus jusqu'à la frontière macédonienne. Puis, on doit marcher jusqu'au train de marchandises qui est stationné dans la forêt. Là, on coupera la bâche et on se cachera dans un wagon. Le train va nous faire traverser la Macédoine et la Serbie. Avec de la chance, on peut même arriver jusqu'en Hongrie. On va y arriver.
Los ne veut pas douter.
Bon, les autres disent que parfois, des bandits s'entendent dans la forêt pour te voler, quoi. Et que souvent, ainsi, la police te prend et que tu vas en prison. Mais avec nous, les policiers vont même pas se rendre compte que quelqu'un est passé. Dieu sait à quel point on souffre ici. Il va nous faire passer.
À la gare routière de Thessalonique, le groupe se divise en 2. Moussa monte dans le premier bus et part en repérage. Madès et Los, avec le bus suivant, s'arrêteront dans le village de Policastro et le rejoindront plus tard, quand il aura vérifié la route. Arrivé à Policastro, Moussa emprunte un nouveau bus qui le conduit vers la frontière. Une fois monté, il téléphone à un contact du Sénégalais qui lui dit de s'arrêter à l'arrêt avant le poste de frontière, juste après un grand pont. Après être descendu, Moussa s'enfonce en courant dans la forêt qui porte la route. Personne ne l'a remarqué. Il marche et rappelle son contact. Il doit continuer dans la forêt encore une heure pour trouver le train. D'autres migrants l'attendent sur place, ceux qui font monter les gens. Le lendemain, Los et Madès partent le rejoindre. L'arrestation. Ce matin-là, j'accompagne Los, Madès et Diallo, un migrant qui les a rejoints. Je veux filmer le début de leur aventure terrestre, jusqu'à ce qu'ils montent dans le train. Depuis Policastro, nous empruntons le bus qui part vers la frontière. Mais Madès comprend mal les indications que lui donne Moussa par téléphone. Nous nous arrêtons au dernier arrêt, au poste frontière. À cet endroit, la route s'élargit et les grandes barrières de la douane grecque nous font face. Notre présence est remarquée. Nous sautons dans un bas-côté et commençons à courir. Un peu plus loin, une voiture de police nous aperçoit et se rapproche. Elle finit par nous coincer. Los, Diallo et moi. Madès réussit à se cacher sous un pont et s'échappe dans les bois. Un policier sent qu'un des migrants lui a échappé et court un moment dans la forêt sans arriver à le rattraper. Pendant ce temps, trois policiers s'occupent de nous. Je dis que je suis journaliste. Ils prennent mon sac et me font monter dans la voiture, sur le siège arrière. Los et Diallo sont menottés et poussés dans le coffre. Les jambes recroquevillées, entravées et coincées contre le pare-brise arrière, personne ne les surveille. Ils en profitent pour se débarrasser des objets qui pourraient les compromettre. Los sort de sa poche le couteau qu'il avait emporté afin de couper les bâches du train et le cache dans le coffre du véhicule de la police. Si les policiers le trouvaient, ils pourraient les prendre pour des passeurs et les deux Africains risqueraient gros. Une fois arrivés au poste de police d'Ebzoni, Los et Diallo sont fouillés entièrement puis libérés. Par contre, les policiers souhaitent me garder un peu plus. Ils pensent que je suis un passeur. En fouillant mon sac, ils découvrent du matériel vidéo et des cartes mémoire. Ils souhaitent les visionner une par une. Il y en a 5. J'en ai 2 autres cachées au fond du sac, mais je ne souhaite pas leur montrer. Il s'agit de vidéos filmées à l'intérieur des commissariats par des migrants à qui j'avais donné des petites caméras. Après avoir fini de manger, je demande à appeler l'ambassade de France à Athènes, mais les policiers refusent. J'essaie ensuite de négocier un appel avec ma rédaction afin de leur prouver que je suis journaliste. Ils finissent par accepter. Une communication s'établit finalement entre la police et l'ambassade de France. L'ambassade me connaît. La police d'Athènes avait averti les services consulaires qu'un journaliste français passait beaucoup de temps avec les Noirs à Kipseli et Al Capone. En fin de soirée, je suis finalement libérée et ramenée à Thessalonique. J'ai perdu la trace de Los, Madès et Moussa. Ils sont en route vers les Balkans. Le train des marchandises. Le train est stationné à la frontière, au milieu d'une épaisse forêt. La veille au soir, un autre train était déjà parti, mais Madès et Moussa avaient préféré attendre leur ami pour faire le trajet. Ils sont partis ensemble et doivent finir le voyage ensemble. Los et Diallo finissent par les rejoindre. Ils ont pris le même bus que la veille au départ de Policastro, mais sont descendus cette fois à temps, un arrêt avant le poste de frontière, juste après le grand pont. Moussa avait laissé un indice pour ses amis. Il avait accroché un bout de pain à un arbre pour leur indiquer la bonne direction. Los et Diallo se sont engagés dans la forêt. Plusieurs kilomètres les séparaient encore du train. Ils croisèrent des groupes de Pakistanais et de Bangladais. En les voyant, Los, l'ancien milicien, fut sur ses gardes. Il s'arma d'un bâton. Certains profitent de l'isolement de la forêt pour attaquer et voler d'autres migrants. Los et Diallo arrivent au train juste avant la nuit. La neige commence à tomber. Ils se réchauffent près d'un feu en compagnie de Moussa et Madès. Ils partagent du pain et des cigarettes en silence. Ce soir, le départ par le train leur coûtera 200 euros. En plus de leur place, dans les wagons, Ils ont acheté un gilet qui permet de ne pas être repéré par les détecteurs qu'utilise la police pour trouver les migrants. Vers minuit, les passeurs et les migrants s'éloignent du train. Les conducteurs vont venir s'installer et la police grecque inspectera les wagons avant le départ. Les migrants marchent sur plusieurs kilomètres et se cachent dans l'obscurité de la forêt sur la route de la Macédoine. Ils devront monter en marche. Un sifflement annonce que le train approche. Il avance à faible allure dans la neige. Les passeurs engagent les migrants à monter. Les migrants déchirent les bâches et s'installent à deux par wagon. Les passeurs colmatent derrière eux les trous faits par les couteaux. Los et Moussa sont ensemble. Madès est monté avec Diallo. Les wagons dans lesquels ils sont entrés au hasard sont remplis de grands cylindres métalliques. Los et Moussa se cachent au-dessus des tubes près du toit. Diallo et Madès préfèrent se glisser contre une paroi. Si le train freine trop brusquement, ils risquent d'être blessés par la chute des lourds cylindres. Au bout d'une demi-heure, le train ralentit. Une patrouille macédonienne arrête le convoi. À l'intérieur, les migrants entendent les bruits des pas des policiers, les aboiements des chiens et des voix qui parlent une langue qu'ils ne comprennent pas. Les policiers font le tour des wagons. S'ils ne repèrent rien dans les wagons où sont cachés Los et Moussa, ils décident par contre d'ouvrir celui de Madès et Diallo. Ils ont un doute. Madès et son compagnon s'étaient positionnés contre l'une des cloisons latérales. Aussi, quand les policiers ouvrent le wagon, ils tombent directement sur les passagers clandestins. La nuit est sombre et les policiers pointent leurs lampes sur le grand et long Madès qui accapare l'attention. Diallo en profite pour s'enfuir. Il saute du wagon et court le long du train puis remonte plus loin. Pour couvrir son compagnon, Madès prend les deux sacs qu'il avait à ses pieds, comme s'ils lui appartenaient tous les deux. Les policiers le font descendre, le menottent et l'emmènent dans la nuit. Le train redémarre, sans Madès, emportant Los, Moussa et Diallo. Debrecen. Située à l'est de la Hongrie, à une trentaine de kilomètres de la Roumanie, Debrecen est plongée dans la brume. C'est le début du printemps, mais tout est encore recouvert de neige. Le vent d'avril apporte le froid et la ville semble ne pas vouloir s'animer. Le matin, il est difficile de savoir quand la journée commence. Seuls quelques tramways serpentent au milieu des grandes avenues et rythment le mouvement de la ville. Depuis peu, Debrecen, ville la plus peuplée de Hongrie, après Budapest, reçoit la visite d'étrangers. Mais on ne les voit pas, ou peu. Ils restent en dehors de la ville, confinés dans un camp militaire transformé en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Depuis quelques mois, ils sont des milliers à vivre dans ce camp avec l'espoir de poursuivre leur route vers l'Europe occidentale. Le centre des demandeurs d'asile est composé de deux bâtiments, de 5 étages, qui comportent chambres, bureaux et cuisine. Le centre est ceint de hauts fils barbelés et est interdit d'accès aux visiteurs. Pour retrouver Los, Moussa et consorts, je dois attendre en dehors du centre, dans un des nombreux cafés internet qui prospèrent sur le destin incertain des migrants.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
C'est ainsi que se termine cette émission de Lu et Approuvé. Ce soir, on vous a lu L'Aventure de Grégory Lassalle, paru aux éditions Non-Lieu l'année dernière, en 2014. Alors, Grégory Lassalle a écrit un livre sur cette aventure des immigrants venus d'Afrique qui essaient de rejoindre l'Europe par la Turquie, puis la Grèce et les Balkans. Mais il a fait aussi un film, puis un film, qui s'appelle de la même manière L'Aventure, et qui est disponible en cherchant un petit peu
taper sur internet par exemple ou dans différentes librairies. Voilà, donc la musique que nous avons écoutée, c'était Killa AP, c'était un rappeur grec antifasciste qui a été assassiné en 2013 justement par des militants de Hope Dorée, le parti nationaliste fascisant grec. Voilà, et les extraits aussi, les extraits musicaux, donc la musique grecque ainsi que le chant sont tirés du film de Grégory Lassalle, donc le film L'Aventure. Bah voilà, lui a prouvé, c'est chaque semaine, chaque mercredi soir à 23h30 environ, et vous pouvez nous retrouver en direct donc sur Canal Sud 92.2 à Toulouse et dans sa région, ainsi que sur le site internet de Canal Sud, donc en direct www.canalsud.net, mais aussi en podcast pour réécouter nos anciennes émissions et celle-ci qui sera disponible dans les jours qui viennent, donc sur le site de Canal Sud et sur notre blog également où vous trouverez plus d'informations. Le blog, c'est luetapprouvé.noblogs.org, et si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à le faire en nous adressant un mail par exemple à luetapprouvé@guyade.org, guyade, G-W-I-A-D, luetapprouvé tout attaché sans accent, luetapprouvé@guyade.org. Si vous souhaitez nous envoyer des courriers, parce qu'on aime lire, alors du coup n'hésitez pas à nous écrire. Les courriers, c'est au émission Lui Approuvé, Radio Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, Dumeril, 31400 Toulouse. On n'a plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée à l'écoute de Canal Sud. Ce sera la playlist musicale de Canal Sud qui va prendre le relais. Et en attendant, bonne soirée à vous, et demain matin, la journée commencera par Dixie Bop, furieusement rockabilly. Bonne soirée à toutes et à tous sur Canal Sud ou ailleurs.